La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Bien entouré comme tous les vendredis soirs avec Jérôme Béglé, directeur général du JDD, avec Victor Chabert du service politique d'Europe 1 et avec Bruno Jeudy qui est au téléphone avec nous, rédacteur en chef politique à Paris Match. Et avant de donner la parole à Bruno qui sans doute a beaucoup de choses à dire à propos d'Elisabeth Borne, cette information qui vient de nous parvenir, le gouvernement qui envisage de recourir au pass sanitaire à l'arrivée dans l'Hexagone, en Corse et dans les Outre-mer. C'est un avant-projet de loi visant à maintenir le dispositif de veille et de sécurité sanitaire jusque en mars 2023.
Eh bien, bon courage à l'Assemblée nationale.
Ça, c'est Victor Chabert qui parle.
Moi qui suggérais des projets de loi qui pouvaient un peu former des majorités consolidées. Là, on est loin du compte.
Bruno Jeudy, pour ce pass sanitaire qui refait surface.
Ah ben, c'est typique du type de texte qui va rapidement devenir un élément politique pour cette un test politique pour cette nouvelle assemblée puisque évidemment que avec la remontée des cas on n'est pas à l'abri d'un recours à nouveau au pass sanitaire peut-être de nouveaux textes sanitaires aussi enfin tout est possible les médecins sont pas très très optimistes sur cette septième vague qui s'annonce et qui pourrait
vous voulez dire à nouveau submerger le pays. C'est le schéma pour voir si, comme on le prédit, comme on l'annonce, l'Assemblée nationale va ressembler à celle de René Coty, comme vous le disiez, c'est-à-dire la 4e République, avec non seulement entre la majorité et la NUP, mais à l'intérieur de la majorité, à l'intérieur de la NUP, à l'intérieur de LR, etc., etc.
Ben, on a bien vu la dernière fois qu'en janvier il y a eu un texte important qui a été voté sur ces questions de passe sanitaire. Les Républicains s'étaient divisés en trois, un tiers contre, un tiers pour, un tiers abstention. Donc ça veut dire que sur ce type de texte, le gouvernement devra aller chercher des majorités et aussi chercher à mesurer l'abstention dans chaque groupe, parce que c'est ça aussi qui compte. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire baisser la majorité absolue en compte tenu du niveau d'abstention que vous pouvez mesurer dans chaque groupe. Ça va être une mandature épuisante pour le gouvernement. C'est pour ça qu'il faut à la fois sans doute quelqu'un qui a un profil politique, mais aussi quelqu'un qui a un profil aussi qui puisse aller négocier concrètement. Oui. Moi, j'avoue que je suis moins sévère que mes confrères sur Elisabeth Borne. Je ne sais pas si elle peut y arriver. En tous les cas, elle n'a rien à perdre. Elle essaie, elle est assez combative. Moi, je l'ai trouvée assez combative. Et elle peut, sur les choses concrètes, elle peut aller discuter. Elle a montré par le passé, lors de lois compliquées, qu'elle avait obtenu des accords, ce qu'on appelle les commissions mixtes paritaires, c'est-à-dire mettre d'accord les sénateurs et les députés sur des textes difficiles. C'est elle qu'en a eu le plus. Donc elle sait faire et elle va constituer. Elle est en train de constituer un cabinet à Matignon qui ne va être tendu que vers cet objectif. Vous savez, à l'Assemblée, on discute de, il y a les grands discours et puis après il y a concrètement
des arrangements. Vote,
les arrangements. Je pense que surtout c'est d'abord beaucoup moins d'arrogance. Dans la mandature précédente, les Républicains disent toujours on a voté 40% des textes, mais on a pris en compte que 5% de nos amendements. Là, il faudra en prendre beaucoup plus.
On a un sondage Odoxa dans le Figaro ce matin qui dit que 70% des Français jugent Emmanuel Macron directement responsable de la crise politique, mais 64% pensent que cette majorité relative peut être une bonne chose pour le rôle du Parlement, parce qu'il y aura peut-être plus de flexibilité et plus de voix différentes sur tel ou tel texte. Qu'est-ce que vous en pensez, Victor Chabert?
Mais c'est un des avantages de du tripartisme, comme on le voit aujourd'hui, avec une gauche et une extrême gauche, un bloc centriste et un gros bloc de droite nationale ou de droite patriote. C'est un des avantages, c'est que ça va redonner au Parlement son rôle de contrôle du pouvoir et aussi un vrai rôle de débat et de poumon de la République, finalement, ce qui était précédemment. Et on va aussi se rendre compte que ce qu'on ne pensait pas possible il y a quelques années, c'est-à-dire d'arriver à discuter, ça va arriver forcément sur des textes. Et c'est donc une modification profonde de notre culture politique qui peut avoir lieu. Ou alors, il y a la stratégie du pourrissement, personne ne s'entend. Et dans ces cas-là, oui, on arrivera
à des blocages. Il ne faut pas qu'on arrive à des images du Parlement italien où ils se foutent des poings dans la gueule. Jérôme Begley, il faut que ça arrive non plus trop loin.
La vision que vous développez est une vision optimiste que je souhaite également. Mais il faut être un peu politicien blanchi sous le harnais pour savoir composer avec ses voisins. Et là, je pense qu'avec la horde de nouveaux députés
NUP,
France Insoumise, NUP et RN, on va avoir des gens qui vont être tentés d'aller dans la castagne et de pas forcément s'écouter les uns les autres. Surtout, en plus, vous avez un groupe pivot qui est quand même le groupe majoritaire, enfin, le groupe du président, qui n'a pas été réputé pour la dernière législature pour avoir écouté les autres. Donc ce sont des gens qui ne sont pas dans la culture du compromis, qui ne sont pas dans la culture du dialogue. Donc je ne suis pas certain que ça s'apprenne comme ça en quelques semaines.
Bien sûr.
En tout cas,
Mais regardez par exemple les positions du groupe RN depuis quelques jours. Sur le pouvoir d'achat, ils sont prêts à y aller. Par exemple, sur le chèque, alors on ne sera pas bien sûr dans des textes approuvés, mais on sera sur des abstentions bienveillantes. Par exemple, sur le chèque pour le pouvoir d'achat qui devrait sortir en septembre, ils ont d'ores et déjà annoncé, le groupe RN, qu'ils allaient faire des amendements, qu'ils allaient proposer et qu'ils s'abstiendraient sur certaines mesures à partir du moment où elles vont dans le bon sens. On voit déjà qu'il y a des chez certains groupes sur lesquels on ne s'attendait pas, parce que ça va être beaucoup plus compliqué avec la France Insoumise qui a décidé de jouer les trublions et de c'est ce que Marine Le Pen appelait.
Allez voir ce que ça va être sur le pass sanitaire.
Là, sur le pass sanitaire, ça va être beaucoup plus compliqué.
Ils vont s'entretuer, dit Jérôme Begley du JDD. Alors, en tout cas, il y a eu un défilé des forces politiques chez Emmanuel Macron dans l'optique de cette coalition, de ce gouvernement national. Résultat, personne n'en a voulu. Écoutez Marine Le Pen.
Est-ce que vous accepteriez de participer à un gouvernement d'union nationale ?
Je pense que la situation ne le justifie pas.
Voilà, merci, bonsoir Rideau. Ça commence bien.
Non mais gouvernement d'union nationale, peut-être, mais pour faire quoi ? Encore une fois, on ne sait pas ce qu'est le projet du président à 3 ou 5 ans. Je rappelle qu'il mène jusqu'au premier tour de la présidentielle une campagne comme il a gouverné, libérale, centriste, centrale, plutôt à droite. Puis après, son chemin de Damas passe par Marseille. À Marseille, il y a ce fameux meeting d'entre-deux-tours où il fait des appels du pied, des clins d'œil très appuyés à Mélenchon et aux Verts. Donc on arrive dans ce second tour, on ne sait plus très bien où il est. Et depuis, se sont écoulés 2 mois et il n'a pas mis à jour son logiciel et notre programme, si je puis dire. On va où ? On veut faire quoi ? Il y a eu la retraite à 65 ans qui est quand même globalement escamotée. Donc un gouvernement d'union nationale, ce n'est pas une mauvaise idée. Et je pense que ça forcerait en plus tout le monde à prendre ses responsabilités et à embarquer dans un bateau pour une direction bien fixée. Mais pour l'instant, on a peut-être le navire, mais on n'a pas le cap.
Oui. Bruno Jeudy ?
Il n'y a pas de gouvernement d'union nationale. Les grands mots, ça ne sert à rien. Un gouvernement d'union nationale, c'est pour l'union sacrée en 14-18, c'est pour des grands moments. Là, honnêtement, il y a 45 voix à trouver. Soit ils y arrivent, soit ils n'y arrivent pas. Je ne crois pas à cette idée d'union nationale. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a refusé. Il a dit que ce n'était pas justifié. Oui. En revanche, peut-être...
Enfin, il l'a proposé, puis ensuite, il a dit « j'y arriverai pas ».
Oui, il l'a proposé, et pas à tous. Et pas à tous, visiblement. Dans le huis clos des conversations avec les chefs de parti. Non, peut-être qu'il fallait avancer, ça ne semble pas marcher, sur l'idée d'une coalition. Et là, il aurait fallu que les partis dits gouvernement, les Républicains pour les citer, et le Parti Socialiste, décident de passer un accord de coalition avec...
Mais vous entendez Christian Jacob, il a tout de suite dit non.
Ils veulent pas parce que c'est pas dans la tradition de notre 5e République, encore une fois. C'est-à-dire que là, on est dans une situation inédite, comme le dit Isabelle Borne, et c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude. On revient à un régime parlementaire. On a oublié que la 5e République, c'est un régime parlementaire. On le pratique plus comme un régime présidentiel. Et surtout, je ne suis pas sûr que le président de la République, Emmanuel Macron, Jupiter, ce soit ce qu'il préfère le mieux, de négocier des compromis. Là, il est obligé, mais pour l'instant, il ne nous a pas montré un grand savoir-faire en la matière.
Victor Chabert.
Et puis, surtout, les partis n'ont pas intérêt à donner à Emmanuel Macron la possibilité de gouverner tranquillement dans un accord de coalition. Emmanuel Macron est terminé en 2027. La vie politique...
C'est pas demain non plus.
C'est pas demain. Mais en politique, votre influence se fait aussi sur votre avenir. Et là, quel est l'avenir d'Emmanuel Macron ? Il n'y en a pas. Alors, ils ont tout intérêt à ce que le macronisme s'éteigne aussi avec Emmanuel Macron. À ce que cette parenthèse ouverte il y a 5 ans...
C'est intéressant, ça. Mais comment est-ce que... Bah, alors, du coup, si... il va y avoir forcément une évolution de ce courant-là.
Bien sûr, mais c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec le tripartisme. Mais ce bloc central qui a finalement paralysé les autres partis pendant 5 ans se retrouve aujourd'hui mis en minorité alors qu'il avait vocation ultra-majoritaire. On est dans un retournement de situation,
cas,
un basculement qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques semaines.
C'est ça, il y a une offre politique qui est celle qu'on a connue plus ou moins de celle de 2017, c'est-à-dire qu'on a, et puis alors, face à une, on a en gros un centre que certains appellent un centre mou, face à une radicalité que représente la NUP, même si d'autres sont venus justement... Et ils ne veulent pas d'un groupe unique au Parlement, et on va y venir parce que Jean-Luc Mélenchon a réagi là-dessus. Mais
quels intérêts auraient
les partis politiques aujourd'hui ?
Quels intérêts auraient les partis comme LR ou le PS à revigorer ce centre qui n'a pas la majorité ?
Et vous remarquerez que la phrase de François Mitterrand n'est plus que jamais juste, c'est-à-dire le centre n'est ni de gauche ni de gauche. Voilà, je le répète souvent cette phrase, mais là pour le coup, elle tombe à pic.